Mathieu Magnodex, bonjour.
Bonjour.
Dans Génération Ocasio-Cortez, vous dressez les portraits de plusieurs militants qui incarnent le renouveau de la gauche américaine. Ces jeunes militent contre le racisme, contre le capitalisme, pour l'environnement. Ces jeunes activistes font-ils partie de ces manifestants qui ont investi les rues de plusieurs villes des États-Unis depuis donc plusieurs jours maintenant, après la mort de George Floyd à Minneapolis?
Oui, ils sont extrêmement actifs en ce moment, plus que jamais. Ils ont été actifs ces derniers temps pendant la crise du coronavirus pour venir en aide. Et alors que cette crise et cette pandémie continuent aux États-Unis, ils sont évidemment extrêmement actifs en ce moment. À Minneapolis, le collectif Black Visions, qui est une émanation du mouvement Black Lives Matter, né dans les années 2012-2013 aux États-Unis, est particulièrement actif pour organiser les manifestations, les encadrer aussi, faire en sorte qu'elles restent pacifiques et avec une forme de joie, malgré évidemment le caractère extrêmement tragique des événements, pour éviter aussi les débordements et penser toujours aux actions futures. Plein d'activistes que j'ai rencontrés pour ce livre sont sur le terrain à Chicago. Charlène Carruthers, d'une organisation qui s'appelle Black Youth Project, est elle aussi extrêmement active contre les violences policières dans cette grande ville démocrate, Chicago.
Avec une femme noire qui est la maire de Chicago.
Une femme noire, lesbienne, qui est au pouvoir à Chicago, mais qui, en matière de police, n'a pas rempli les promesses que ces activistes plaçaient en elle ces derniers temps. Elle a été récemment élue et elle continue, avec quelques améliorations, mais elle continue à augmenter le budget de la police et à créer des nouvelles écoles de police dans la ville, et ce qui pose un énorme problème à ces activistes. Donc, ils sont extrêmement actifs pour réclamer, non pas juste la fin des violences policières, mais leur mot d'ordre, c'est « defund the police », c'est-à-dire baisser structurellement, baisser substantiellement les budgets de la police pour éliminer ce qu'ils appellent le « over-policing », c'est-à-dire cet excès de police partout dans les quartiers, particulièrement les quartiers populaires, et dont ils estiment que c'est cela qui met le feu aux poudres quotidiennement dans leur vie. Donc oui, ils sont extrêmement actifs. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à Black Lives Matter, à partir de 2012, 2013 jusqu'en 2015, 2016, Black Lives Matter était un mouvement conduit pour beaucoup par des jeunes noirs et avec beaucoup de manifestants noirs. Il y avait évidemment des actions de solidarité de blancs ou d'asiatiques, mais il y avait quand même majoritairement des gens qui étaient dans la rue et qui étaient des noirs, les premiers concernés par les violences policières. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements qu'on voit aujourd'hui surgir dans toutes les grandes villes américaines, et même parfois dans de toutes petites villes, sont rejoints par une coalition beaucoup plus large. Il y a des blancs dans ces manifestations, ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a beaucoup.
Alors, Barack Obama a remercié cette jeunesse, il a parlé de leur capacité d'organisation, de mobilisation, d'engagement, et c'est vrai que c'est ce que vous montrez aussi dans votre livre à travers tous ces portraits. Ce sont des jeunes qui se revendiquent comme « organizers », et qui ont une méthode pour mobiliser. Alors, en quoi ça consiste exactement ?
Alors, l'organizing, c'est en effet une méthode, une pratique qui surgit aux États-Unis dans les années 30, à Chicago, justement, dans cette ville dont nous avons parlé, dans un quartier pauvre de Chicago, un monsieur qui s'appelait Saul Alinsky, qui n'était pas du tout un radical, qui était plutôt un centriste pragmatique, mais qui connaissait la réalité des quartiers populaires très pauvres de Chicago, a décidé d'organiser les habitants du quartier d'où il vivait, tout simplement parce qu'il voyait que, en demandant tout simplement les choses de la façon la plus simple du monde, il n'obtenait rien. Et donc, il a souhaité améliorer la vie de ses quartiers. Et ce qu'il a réfléchi, c'était une méthode qui permettait de mettre ensemble les premiers concernés, les habitants d'un quartier, pour qu'ils donc s'organisent autour de causes et autour de demandes précises, en adressant leurs demandes à des agents publics, à des élus, à des officiels, avec des cibles très précises. Quand on veut changer, par exemple, les choses autour du logement, on s'adresse à l'agence du logement, on s'adresse au maire, et on crée un rapport de force. Et l'idée, c'est de mettre ensemble les gens. D'abord, ils parlent entre eux, ils racontent leurs histoires, ils isolent les problèmes, ils créent du lien, ce faisant, cette petite dimension humaine qui commence à émerger. Ils se structurent, ils deviennent un réseau, finalement, de gens qui se connaissent et qui commencent à imaginer ensemble des demandes précises adressées au pouvoir public, mais aussi des campagnes et des tactiques pour arriver à cela. Et donc, ça peut passer par des pétitions simples, appeler son représentant local, mais ça peut aussi passer par des tactiques de manifestation, de blocage, par du théâtre de rue, par toutes sortes d'actions qui vont permettre d'attirer l'attention sur la lutte et de publiciser la demande que l'on fait et de créer ce rapport de force. Et cette stratégie, née à Chicago dans les années 30, elle a véritablement irrigué ensuite, hein, par exemple au moment des droits civiques, il y a de formidables organisers évidemment pendant la période des droits civiques, et elle a continué finalement depuis aux États-Unis, et elle s'est bien sûr revivifiée au moment des luttes altermondialistes, donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, au moment d'Occupy Wall Street, après la crise financière aux États-Unis, qui a été un énorme moment d'organizing, et puis, évidemment, ces dernières années avec Black Lives Matter, et puis, plus récemment, avant même les manifestations qu'on voit aujourd'hui, tout un surgissement, c'est ce que je raconte dans le livre, de nouveaux mouvements et de personnes très jeunes, parfois très jeunes, 18, 19 ans, hein, pour les plus jeunes, qui luttent à la fois, eh bien, contre la politique migratoire de Donald Trump, puisque Donald Trump a représenté évidemment un basculement très important pour eux, hein, c'était le président contemporain le plus raciste et le plus obscurantiste, d'une certaine façon, que les États-Unis n'aient jamais élu, et par exemple aussi pour le climat, pour l'urgence climatique, à nouveau encore contre les violences policières, et donc on voit bien comment sous Trump, finalement, se sont agrégés plein de luttes, plein de mouvements, l'idée était de dire, sur tous les plans, y compris le plan économique, social, culturel, racial, nous vivons une période invivable, et donc nous devons de façon urgente changer ce monde. Il faut bien comprendre que tous ces jeunes activistes, hein, pour certains nés à la fin des années 80 ou début des années 90, et parfois même jusqu'en 2000, leur monde, le monde qu'ils ont connu, a été un monde de crise perpétuelle, et ils entendent bien le changer.
Par exemple, Tara Ragouver, dont vous dressez le portrait dans votre livre, veut changer le monde. Elle veut changer le monde dans sa ville d'origine, Kansas City, dans le Missouri. Elle a monté une association, mais vous montrez aussi comment, alors effectivement, elle avait la stratégie, elle avait la méthode, mais ça s'est fait aussi sur un terrain qui n'était pas très facile, puisqu'on ne se mobilise pas facilement dans le Missouri.
Oui, tout à fait. Le Missouri, c'est un État conservateur. Kansas City est une ville vaguement démocrate, enfin démocrate, mais démocrate de façon traditionnelle.
Conservatrice.
Voilà, où il n'y a pas beaucoup d'activités politiques, en fait. Il y a des élus, bon, il y a peu de mouvements là-bas. Et Tara Ragouver, c'est l'histoire d'un succès d'organisation locale sous Donald Trump, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, elle était partie pour faire de la finance, pour devenir trader, elle a refait Harvard. C'était quelqu'un pour qui le chemin de la réussite matérielle et capitalistique, d'une certaine façon, était tracé. Et puis, elle a décidé de changer de voie. Et un des chocs qu'elle a eu, c'est après l'élection de Donald Trump, parce que Tara Ragouver est d'origine indienne et elle a vécu le racisme affirmé par Donald Trump dans sa chair. Et le deuxième choc, ça a été qu'à un moment, elle est revenue dans sa ville de Kansas City, qu'elle avait quittée quelques temps pour faire ses études. Et là, elle s'est rendue compte de l'incroyable crise du logement dans sa ville. Kansas City est une des villes les plus ségrégées des États-Unis. C'est une ville historiquement divisée en deux, les quartiers blancs et les quartiers noirs. Et elle s'est rendue compte de cette réalité qui était à deux pas de chez elle, qu'elle n'avait jamais connue parce qu'elle avait vécu dans une famille relativement aisée. Et en fait, Tara Ragouver là, a créé de toutes pièces une nouvelle organisation à Kansas City. Et là encore, elle a appliqué des principes classiques du community organizing, c'est-à-dire qu'elle est allée voir les habitants de ces quartiers populaires qui souffraient d'expulsion locative, même parfois quand ils avaient d'ailleurs de forts revenus, hein, ou qui avaient des difficultés pour se loger. Elle les a fait parler, elle les a fait se rencontrer. Ils ont découvert qu'ils avaient des objectifs communs. Comme elle dit, au bout de 5 minutes, on nous disait que ces gens-là se foutaient de la politique et de l'action collective. Au bout de 5 minutes, ils parlaient de coopérative. Donc, c'est bien la preuve que quand même, il y avait une forme d'intelligence qu'il suffisait de réactiver. Et en fait, elle leur a fait comprendre qu'ils avaient un pouvoir politique, que le pouvoir politique, il était en eux à condition de l'activer. Et ils ont lancé toutes sortes de campagnes. Et ils ont obtenu déjà des choses. Ils ont pesé sur la campagne municipale qui s'est passée localement. Et ils continuent d'être extrêmement actifs. Parallèlement, elle a une activité aussi dans une organisation nationale qui pousse le sujet très important. De, par exemple, la garantie de logement ou de la construction de millions de logements sociaux aux États-Unis.
Alors, vous nous parliez tout à l'heure de cette jeune femme qui se battait dans une association à Chicago. Et ce qui frappe dans votre livre, c'est la place, effectivement, des femmes et des femmes noires à la tête de ces organisations.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans les manifestations aujourd'hui, hein, aux États-Unis et d'ailleurs aussi un peu en France, hein, pour avoir été à la manifestation à Paris mardi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fil là qui se retisse avec une histoire ancienne apparue dès les années 70 d'un féminisme noir intersectionnelle qui affirme que il faut gérer ensemble les questions de race, de classe et de genre, parce que ce n'est que comme ça, en tenant tous ces bouts, qu'on arrivera à régler les problèmes de la société dans son ensemble. Et en fait, il y a là toute une tradition de aux États-Unis, souvent méconnue, parfois aux États-Unis et encore plus méconnue en France, d'un féminisme noir, radical, qui se plaçait évidemment en contraste avec le féminisme blanc, parce qu'ils estimaient tout simplement, elles estimaient tout simplement qu'elles étaient effacées du paysage, mais qui se plaçaient aussi dans une forme de distance par rapport aux hommes noirs dont certains, pas tous évidemment, mais dont certains pouvaient eux-mêmes être des oppresseurs domestiques parfois. Et donc il y avait cette idée d'arriver à se mettre ensemble pour réfléchir à la façon de s'organiser ensemble. Et cette tradition du féminisme noir intersectionnel, elle a irrigué et elle continue d'être extrêmement présente. Et une grande partie des mouvements qui sont dans la constellation Black Lives Matter et des mouvements qui sont aujourd'hui actifs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont conduites par des femmes noires, queer, et donc qui sont dans une sorte de fluidité de genre et qui ne veulent pas être définies souvent par elles ou ils, et parce que elles se disent nous sommes, en tant que femmes queer racisées, au centre de toutes les oppressions, nous les subissons toutes, nous les connaissons toutes, et c'est notre regard peut servir à formuler des demandes qui vont permettre d'améliorer non pas notre propre sort seulement, mais le sort de l'ensemble de la société, car si on règle les problèmes des plus marginalisés, alors on a des chances de régler les problèmes qui se posent à la société tout entière.
Alors, je ne sais pas quelle sera la suite du mouvement que l'on aperçoit en ce moment aux États-Unis après la mort de George Floyd, mais en tous les cas, c'est ce que vous nous expliquez, c'est que ces jeunes activistes font le pari d'une bascule politique qui serait en cours, et ils appellent ça le réalignement.
Oui, alors j'ai interrogé il y a quelques jours Maurice Mitchell, qui est une des figures du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, et lui, il dit par rapport à 2015, on a là quelque chose qui est parti pour durer. C'est véritablement à nouveau une lutte fondatrice, une lutte déjà historique, qui laissera des traces, même si elles ne sont peut-être pas immédiatement perceptibles, même peut-être dans le résultat de la présidentielle. En tout cas, il dit, du 3 novembre, en tout cas, il dit, vraiment, on a vraiment là un mouvement qui est massif et beaucoup plus important qu'en 2015. Alors, pour revenir sur la question du réalignement, une grande partie de ces organisateurs se disent qu'en effet, se prépare une période de réalignement politique, au sens où nous quittons, disent-ils, 40 ans de néolibéralisme, 40 ans de surveillance, 40 ans de policing, donc de loi et d'ordre, qui est le mot d'ordre de Donald Trump aujourd'hui, d'ultra-capitalisme, qui grignote tout à fait, non plus seulement les classes populaires, mais qui atteint les classes moyennes supérieures. Et donc cette idée que le modèle actuel est invivable, et donc il parie en effet sur ce qu'ils appellent une sorte de nouveau New Deal aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on renouerait avec une politique redistributive, une politique qui permettrait une relance économique massive, mais cette fois-ci écologique, durable, et qui permettrait d'intégrer toutes ces demandes des injustices sociales, raciales ou évidemment aux violences policières.
Merci Mathieu Magnodex.
Merci à vous.